Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. En cette fin d'après-midi où nous allons évoquer une fois encore la Ligue des Champions, deuxième soirée de cette troisième journée, phase de groupe avec nos invités qui sont déjà là. Parce qu'on va parler notamment du Paris Saint-Germain. Le PSG à Lisbonne face au Benfica, une équipe portugaise invaincue à ce moment de la compétition. Et nous retrouverons aussi notre envoyé spécial Cédric de Oliveira, mais il y a un Parisien dans ce studio. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Pas de...
Hein
non, il n'est jamais stressé avant le match.
Non, je ne suis pas stressé, mais je pense que ça va être un match très très difficile.
Ça va être intense. Ouais. On a vu hier que les troisièmes journées, il y a toujours beaucoup d'intensité. Marseille, l'OM hier vainqueur de l'autre grand club de Lisbonne, le Sporting Lisbonne, sur le score de 4-1. Quelle leçon tirer de ce match? Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous. On reprend espoir tout simplement. Voilà.
Voilà.
Une leçon.
On peut toujours rêver de huitième de finale du côté de la Canebière.
Eh ben, évidemment qu'on peut rêver dans une poule qui me paraît accessible, même si l'OM n'est pas un foudre de guerre.
Exactement, et nous en parlerons aussi dans cette émission. Chelsea au pied du mur, c'est face au Milan AC sur sa pelouse de Stamford Bridge. Chelsea qui n'a encore qu'un petit point dans cette compétition, l'après Tuchel. Commence ce soir en Ligue des Champions. Bonjour Salim Boumgali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Oui, soirée bien délicate, c'est sûr, pour les Blues.
N'est-ce pas, hein ? Ça sera compliqué pour eux. Et puis nous évoquerons aussi cette folie des grandeurs ou de l'illogique plus que de la logique pour ce qui est de l'organisation des compétitions sportives sur la planète de plus en plus grande et de moins en moins compréhensible pour ce qui est des choix de ces compétitions. Radio Foot, préparé avec l'aide de David Finzel et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti. Hein, de la musique brésilienne? Non, c'est de la musique portugaise, puisque nous allons aujourd'hui à Lisbonne. Et oui, ce soir, le Paris Saint-Germain jouera au Estádio da Luz, le stade de la lumière dans le nord de Lisbonne. C'est donc au Portugal, un stade que les Parisiens connaissent bien. Ils y ont disputé une finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps, c'était en août 2020. Cette finale perdue face au Bayern Munich, on s'en souvient. D'ailleurs, il faut le signaler, aucune équipe française n'a jamais gagné dans cette arène portugaise. Alors aujourd'hui, le Paris Saint-Germain y jouera son troisième match européen pour ce qui est de la phase de poule contre les aigles locaux, les rouges de Benfica. Et la partie devrait être enlevée. Nous allons rejoindre tout de suite Cédric de Oliveira. Boa tarde, Cédric.
Boa tarde, Annie. Boa tarde, tout le monde.
Cédric, cette capitale, parlons un petit peu de Lisbonne. Elle apprécie, disons, le sport en général, mais le football en particulier. Il y a beaucoup de stades, de grands stades. C'est un peu comme à Londres, des grands clubs dans la capitale.
Alors, vous avez dit apprécier, c'est un euphémisme, Annie. Je pense qu'ici, vous ne pouvez pas en fait être neutre en ce qui concerne le football. C'est-à-dire que y a deux grands clubs, le Benfica d'un côté, le Sporting. Donc ce qui est un petit peu rigolo, c'est qu'ils ont joué deux équipes françaises, enfin qu'ils jouent deux équipes françaises en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est difficile en fait de ne pas prendre position. Donc par exemple aujourd'hui, j'ai rencontré quelques supporters du Benfica qui chambraient, qui étaient assez contents de ce qui était arrivé au Sporting hier du côté du Vélodrome, et notamment assez contents de voir ce que le portier Adan avait réalisé hier. Mais oui, effectivement, il y a une fracture. Alors c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas,
une division.
Ici, je pense que on préfère supporter son club que la sélection portugaise, par exemple. Et il faut voir quand même les célébrations, notamment quand le Benfica gagne des titres. Ici, c'est assez incroyable. Et bien voilà, ce sont les deux grands clubs de la ville. Et puis, comme le disait analysé nos confrères de l'équipe cette semaine. Ils ont fait un joli papier dessus. Eh bien, il y a un troisième club qui est revenu dans la Liga portugaise cette saison. Il s'appelle Casapia. Alors, évidemment, on n'en est pas au niveau des deux autres entités, des institutions du foot portugais que sont le Benfica et le Sporting. Mais voilà, il y a donc trois clubs dans cette capitale portugaise.
Il y avait même Belenense, il n'y a pas si longtemps, qui est désormais en deuxième division. Salim ?
Juste, je voulais raconter une petite anecdote perso, parce qu'il y a quelques années avec madame, on est allé à Lisbonne justement, et à l'hôtel, on papote avec la personne le réceptionniste, et là je lui dis, voilà, je voudrais bien visiter les stades et tout, et là il me dit, moi en plus je suis fan du Sporting, si tu veux je peux t'avoir la place facilement et tout, je voudrais bien faire Sporting, le Benfica aussi, et là un regard noir du réceptionniste envers son client. Non, pas le Benfica. Enfin, on comprend pour qui on est supporter et pour qui on ne l'est pas. Là-bas.
On peut pas être neutre, quoi, si je comprends bien dans cette histoire. En tout cas, pour ce qui est de ces certains éléments, il y en a parmi les joueurs du Paris Saint-Germain qui connaissent le championnat portugais, qui connaissent l'ambiance dans certains stades et notamment dans le stade de Lisbonne. Alors, Nuno Mendes, pour ce qui est du Paris Saint-Germain, lui, c'est un ex-Sporting de Lisbonne. Hein, le maillot vert et blanc et qu'a porté il y a longtemps Cristiano Ronaldo. Et puis, on a aussi Danilo Pereira, formé au Benfica et qui se souvient d'une ambiance folle. Lui qui, par ailleurs, jouait avec les Dragons de Porto et là-bas aussi, dans ce stade des Dragons. Il y a beaucoup d'ambiance. Écoutons-le, Danilo Pereira, à votre micro, Cédric de Oliveira.
Pendant 5 ans que j'ai joué à Porto, c'était tous les jours difficile de jouer ici parce que c'est un stade qui a 65 000 spectateurs. C'est une ambiance chaude, c'est une ambiance très favorable pour qui joue ici. Et je pense que demain va être chaude aussi. C'est à nous de faire un gros match ici pour porter les 3 points à la maison.
Ils ont intérêt à s'attendre à une grosse ambiance, mais bon, le Paris Saint-Germain, c'est pas ce qui va les déstabiliser, Eric.
Non, mais après, ça reste, voilà, l'adversaire est
65 000 personnes.
Je parle pas de l'ambiance, je suis pas sûr que ce soit l'ambiance qui les déstabilise, mais par contre, l'adversaire, oui. Ça, là-dessus, sur le jeu et sur l'opposition, oui, ils vont être bousculés. Ça, c'est une certitude. Parce que sinon, après, le reste, les matchs où, quand tu vas en Turquie, quand tu vas à l'Étoile Rouge, je pense que ça se coûte autant, voire plus. Donc non, je pense que surtout l'adversaire aujourd'hui qui va être correct.
Eh bien justement, ces aigles, ils sont toutes griffes dehors cette saison en Liga comme en Ligue des Champions. Les joueurs du Benfica sont invaincus. Ils sont donc après 8 journées en tête de leur championnat devant Braga et Porto. Et ils sont premiers ex aequo avec le Paris Saint-Germain dans ce groupe H. Chacun 2 victoires et 6 points. Écoutons l'entraîneur de cette équipe. Alors, c'est un entraîneur allemand, il s'appelle Roger Schmidt et il évoque justement le Paris Saint-Germain parce qu'on entendait hier Christophe Galtier dans Radio Foot parler de l'adversaire. Et bien là, écoutons Roger Schmidt parler justement du Paris Saint-Germain et aussi de l'intérêt de ce match parce qu'on peut penser que c'est un match peut-être décisif, c'est un match aller-retour. Hein.
Paris est notre troisième adversaire. On a battu les deux premiers. Quand vous jouez à domicile, après avoir déjà gagné un match à l'extérieur, en étant victorieux, vous avez de bonnes chances d'aller au tour suivant. C'est notre souhait. On veut utiliser chaque match pour prouver qu'on mérite de revenir en Ligue des Champions après Noël. Ce sera dur face au Paris Saint-Germain, mais les matchs suivants le seront aussi. On va se battre jusqu'au bout. Chaque match est une chance de prendre un avantage. C'est vraiment l'objectif.
Cédric de Oliveira, que dit la presse de Lisbonne aujourd'hui par rapport à cette équipe de Benfica ? Est-ce qu'ils sont confiants finalement ?
Alors confiance, c'est un bien grand mot évidemment. Ici à Lisbonne, on a peur des stars, Messi, Neymar et Kylian Mbappé forcément. Quand vous arrivez avec une telle force de frappe, ça fait peur. Mais la presse portugaise qui aime aussi rappeler quand même que le Benfica, c'est pas n'importe quel club, c'est une institution au niveau européen. On rappelle que le Benfica a déjà gagné la Ligue des Champions 2 fois, même si c'était il y a un moment maintenant dans les années 60. On aime aussi rappeler que le Benfica, Européen n'a jamais perdu contre une équipe française dans son stade. On l'a répété, on l'a entendu tout à l'heure. Et puis, eh bien, on rappelle que cette équipe du Benfica, elle a aussi l'avantage d'être entraînée maintenant par Roger Schmidt, qui essaye d'inculquer ses idées de pressing avec des joueurs comme Gonçalo Ramos, comme aussi Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin. Nouvelle pépite ici du Benfica, qu'il y a les moyens de contrecarrer cette équipe du PSG qui fait bien évidemment peur, mais que le Benfica a largement les armes pour aller contrecarrer cette équipe.
Nabil Djellit, est-ce que pour vous le Benfica a raison d'être impressionné ou ne doit-il pas se laisser impressionner ?
Non, le Benfica ne doit pas se laisser impressionner. On rappelle quand même le pédigré, le CV de ce club. Même si ça n'a pas toujours été une grande équipe ces dernières années ou c'est sur la dernière décade, ça reste un grand club. Une institution
très souvent
incroyable.
Présent là où il faut.
Voilà, une histoire exceptionnelle. On ne va pas revenir sur l'histoire de Benfica qui a déjà gagné cette compétition avec des joueurs aussi qui ont marqué même l'histoire du football. D'ailleurs, c'est dommage que Di Maria ait quitté le Paris Saint-Germain parce que c'est à Benfica qu'il s'est fait connaître avant de partir du côté du Real. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui a un guide avec cet entraîneur allemand qui réalise des bonnes choses. Elle est en tête de son championnat.
Elle joue bien, elle a un bon jeu.
Ce qu'on croit comprendre à la mi-temps presque de cette Ligue des Champions, c'est que le véritable adversaire du Paris Saint-Germain dans cette poule, c'est pas la Juve,
c'est bien Benfica.
Et moi, je suis très excité par le match de ce soir et je suis persuadé, comme l'a dit à juste titre Eric, que cette équipe de Benfica a les armes pour bousculer le Paris Saint-Germain.
Cédric ?
Non, je disais que je m'appelais Cédric, mais bon, après, c'est...
Ah, pardon.
C'est juste une
Eric,
petite...
Il parlait d'Eric Rabessandratana, en fait.
Mais en tout cas, pour prolonger vos propos aussi, par rapport à cette équipe de Benfica, c'est que chaque année, au final, chaque année, il y a aussi des joueurs qui sortent. Là, on parlait d'Enzo Fernandez. Je rappelle l'année dernière, encore Darwin Núñez, qui a été vendu pour 80 millions d'euros. Enfin, chaque année, quasiment, Benfica arrive à sortir un très gros, qui ensuite va exploser ailleurs.
Mais ça, c'est vrai pour Benfica, c'est vrai pour
Félix,
Porto.
Pour les trois Portugais.
C'est impressionnant.
C'est d'ailleurs le club européen qui forme le mieux et surtout qui ça rapporte le mieux.
Le plus de plus-value, vous avez raison. Et il y a aussi un transfert marquant, c'est celui de João Félix.
Bon, après, 126 millions.
Alors Annie, pour être honnête avec nos auditeurs, c'est 126 millions d'euros, sauf que c'est 80 millions plus ou moins dans les caisses de Benfica et 40 en intermédiation pour bien expliquer les montages dans le football. Mmh.
Salim. 1 milliard d'euros sur 10 ans, Benfica, d'après les calculs. 1 milliard d'euros de vente de joueurs, ce qui d'ailleurs est à mettre en opposition avec le projet du PSG, qui lui a fait plutôt l'inverse, investi dans presque 1 milliard et demi d'euros en 10 ans dans l'achat de joueurs.
Eric, alors ils sont prévenus, les Parisiens, évidemment.
Ouais, bien sûr. Mmh. Bah, ils sont prévenus. Quand tu as autant de joueurs portugais dans ton équipe, si tu n'es pas prêt à jouer ce Benfica, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, je pense que ça va être un vrai test pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'attends de voir s'ils sont capables d'aller faire une performance là-bas, parce que tout nous dit que non. C'est-à-dire qu'ils sont un peu moins bien physiquement, un peu plus relâchés par rapport à ce qu'ils faisaient au début de saison. Donc, c'est pas du tout la même équipe, je trouve, aujourd'hui. Maintenant, ils sont très... très réalistes. Donc ils vont être capables de souffrir et d'être capables de poser des problèmes offensivement aussi.
La clé, c'est pas de savoir s'ils vont défendre à 11, quoi. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce genre de match.
Je pense qu'ils vont défendre. Si
le Paris Saint-Germain, collectivement, travaille ensemble, ils sont plus forts que Benfica.
Bien sûr. Ça a changé, ça, déjà.
En tout cas, on va entendre leur entraîneur, Christophe Galtier. Lui aussi est prévenu de ce que peut proposer cette équipe de Lisbonne.
Très intéressante à avoir joué, très bien organisée, avec de la qualité à la fois individuelle dans son effectif, mais aussi une force collective importante. Et je ne suis pas surpris qu'elle soit à ce niveau-là. Et aujourd'hui, Benfica peut prétendre être un favori de ce groupe-là, bien évidemment.
Oui, alors effectivement, deux équipes, deux victoires, 6 points. C'est entre L2 que se jouera, mais se joue la première place. Et on avait vu l'année dernière que c'était ô combien important.
En tout cas, quand on parle du jeu de Benfica, j'ai presque envie de dire que c'est un jeu qui est favorable au PSG. Schmidt s'en cache pas, ils veulent jouer. Schmidt s'en cache pas, ils veulent presser. Presser, c'est bien. Et Eric le dira encore mieux que nous, c'est que si vous pressez bien, c'est dangereux. Mais si vous pressez mal, c'est dangereux pour vous, pour le coup. Et quand on a les trois flèches devant qui, semble-t-il, s'entendent plus plutôt bien ces dernières semaines. Quand on a un petit Argentin qui a l'air d'être en forme olympique en ce moment, ben, c'est ça qui peut être dangereux et qui peut, au final peut être favorable au PSG.
Qu'est-ce qui fait peur le plus du côté de Lisbonne, Cédric? Est-ce que c'est les trois stars? Alors on a vu qu'en plus elles ont été très bien reçues, notamment Messi. Hein, il y avait des supporters hier soir qui chantaient devant son hôtel. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un collectif qui fait peur? Est-ce que c'est aussi finalement un club qui affiche ses ambitions depuis 10 ans?
Non, bah c'est clairement de voir que Neymar, Messi et Mbappé sont alignés ensemble et qu'on peut faire la différence à tout moment. Dans la presse portugaise, on a vu rappeler en tout cas que ce week-end, c'était grâce à ces individualités que le PSG avait gagné. Le coup franc de Lionel Messi et le but de Mbappé qui est rentré et donc qui a été opportuniste, qui a permis au PSG de l'emporter. Et justement, on a l'impression que ces joueurs-là peuvent faire la différence à tout moment et contre n'importe quelle équipe. Donc le Benfica, forcément, les supporters se méfient de ces joueurs. Mais voilà, encore une fois, essaye de s'appuyer sur ce collectif de Portugais qui, pourquoi pas, pourrait, avec cette ambiance en tout cas, aller chercher, aller mettre la pression sur cette équipe parisienne qui a déjà été en difficulté dans ce genre d'ambiance lors de ces dernières années. Et on rappelle qu'aucune équipe française et que le PSG ne s'est jamais imposé dans ce stade de la Louche. Donc, à voir tout à l'heure.
Exactement, c'est un peu le fantôme qui planera sur ce match. Eric, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien. Alors, on les avait vus évidemment flamboyants, c'était le début de saison, le trophée des champions et puis tout le reste des scores, fleuves et tout ça. En ce moment, c'est quoi? On se relâche ou vraiment on commence à sentir, je ne sais pas,
on pense à la Coupe du Monde peut-être?
Non, mais je ne pense pas en fait. Je pense qu'ils sont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins d'occasions, mais par contre, ils sont très réalistes. Et ça, je pense que dans une compétition comme la Ligue des Champions, ça peut aider énormément. On a vu Messi retrouver le chemin des filets sur coup franc, ce qui va peut-être changer la donne cette année parce qu'il a touché, je ne sais pas combien de fois,
le poteau ou les montants.
Les montants sur les. Et là, et en fait, il a dégagé quelque chose d'incroyable sur son coup franc. On a l'impression qu'il avait retrouvé quelque chose. Il avait été tellement vexé de
cette fait.
Et ça a été tellement naturel que, hop, quand il a tiré, j'étais presque persuadé qu'il allait marquer, et il l'a fait tellement facilement qu'on se dit que voilà, peut-être que ces actions-là ou c'est le fait d'être réaliste en Ligue des Champions, ça peut aider beaucoup.
Alors, le PSG plus réaliste, plus froid, ok. Mais attention, le PSG continue quand même de concéder des occasions. Rappelez-vous, juste avant la trêve, face au Maccabi, par exemple, où le Maccabi, à 1-1, ils ont des occasions, alors que c'était... Pardon, mais de le dire, mais c'est en fait, c'était que le Maccabi au final. Donc, j'ai envie de dire, là, face à des attaquants un peu au-dessus de la moyenne, puisque Benfica, ils ont des attaquants au-dessus de la moyenne, notamment Gonçalo Ramos, qui va peut-être exploser à la phase du monde ce soir. Là, c'est beaucoup plus dangereux pour le coup. Donnarumma, il ne pourra pas tout faire.
Il a pas intérêt à dribbler déjà ce soir, parce que s'il veut s'amuser à ça, je pense qu'il va le faire tout drôle.
Il va le faire. Il va sans doute le faire encore.
Il va le faire encore. Nabil, pour vous, ils sont un peu émoussés, ou alors ils avaient aussi pris de haut un peu ce Maccabi en allant là-bas? Certes, il faisait chaud. Certes, il y avait quelques...
C'est une bonne piqûre de rappel, le Maccabi Haïfa. Après, ce qu'on leur demande, c'est ce qui a été promis en début de saison, cette fameuse révolution. Révolution non pas seulement sur le terrain, mais une révolution au niveau des états d'esprit de mettre l'exigence et la rigueur suffisante sur des matchs comme ceux-là, haute intensité, avec, et je le répète encore une fois, au-delà des talents individuels, l'idée de travailler tous ensemble. Parce que quand on discute un peu avec les acteurs du foot, vous savez, le Paris Saint-Germain, c'est vu d'une certaine manière, c'est-à-dire que quand vous franchissez le premier rideau, vous êtes à 11 contre 7. Enfin, ou 10 contre 7, comme vous voulez, si vous comptez le gardien ou pas. Voilà, c'est ça l'idée, moi, c'est de savoir, est-ce que le Paris Saint-Germain à progresser collectivement? Est-ce que c'est un bloc? Est-ce qu'il y a de la cohésion? Est-ce qu'il y a moins d'espace entre les lignes? Est-ce que quand on perce ce milieu de terrain ensuite et on arrive lancé face à des trentenaires, je le rappelle quand même. Non, mais il faut le dire les choses. Alors, c'est pas contre vous, Eric. Je sais que vous avez été défenseur central de haut niveau.
Je comprends la difficulté.
Et jeune. Et jeune.
La difficulté. Non, mais honnêtement. J'ai oublié déjà.
Mais honnêtement, quand tu vois des gars arriver lancés à 2000, il y a un moment, c'est pas simple. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir si le Paris Saint-Germain est en train de devenir une équipe. J'ai aucun doute sur le fait que quand vous voyez Messi arriver, vous avez la frousse, hein. Il n'y a pas de souci. Hein.
Mais disons, moi, je pense que ça a changé quand même. Ça a changé par rapport à ce qu'on a pu voir la saison dernière. Alors, ce n'est pas encore la grande transformation, mais on voit des Mbappé travailler défensivement, on voit des Neymar travailler défensivement. Ce n'est pas juste je fais ça en attendant que je touche le ballon pour repartir en avant. C'est vraiment du travail défensif. Donc déjà, ça a changé ça. Après, on verra combien de temps ça durera, mais en tout cas, pour l'instant, on voit des comportements comme ça. Donc, sur des matchs contre Benfica, ça va être important de les voir et surtout, après, de voir ce qu'ils vont faire avec le ballon.
Cédric, vous voulez rajouter quelque chose pour terminer ?
Non, je pense qu'on va avoir un très beau match ce soir.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Ça va être très sympa.
Ouais, ça risque d'être effectivement très intéressant. Et on vous retrouvera dans la deuxième partie de Radio Foot International. Cédric, bon match à vous du côté de Lisbonne.
Merci, à tout à l'heure.
Merci beaucoup, Cédric. Dans le même groupe, deux équipes qui font zéro point. C'est la Juventus de Turin qui reçoit le Maccabi Haïfa, justement. Alors, peut-être, Salim, pour eux, l'occasion pour le club italien de marquer quelques points en Ligue
enfin,
des Champions.
Enfin, oui, face à l'équipe la plus faible du groupe. Alors, même
ouais,
si...
Bien casse-pied, quand même.
Ah oui, vous avez raison, qui a causé pas mal de soucis au PSG. C'est vrai que la Juve, qui... un objectif très clair, on le sait, c'est comme le Barça, c'est comme d'autres, c'est obligatoirement aller en huitième. Si en plus, là où vous êtes dans une période de relance de la machine, avec des joueurs qui ont beaucoup changé, si en plus vous n'arrivez même pas à aller en huitième, là ce sera un coup très dur, on sait que l'entraîneur est menacé, il y a beaucoup de dossiers, enfin bref.
On parlait du Paris Saint-Germain. Mais moi, à la Juve, je demande à Allegri de se mettre sur le côté et je prends Tuchel directement. Je fais tout pour prendre Tuchel. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de logiciel du côté de la Juve, qu'il y ait une équipe qui s'enquiste et qui donne l'impression d'avoir une forme d'archaïsme dans sa manière de jouer. Alors le projet, c'est Vlahovic. Alors ok, lui, il n'y a pas de souci, c'est un monstre. Mais le jour où il est dans un collectif qui tourne, vous verrez, la Juve reviendra.
Bien sûr.
Mais moi, je crois, je me trompe peut-être, je crois qu'ils ont besoin d'un électrochoc. Et un électrochoc, ça passe par un changement culturel au niveau de l'entraîneur qu'ils vont choisir.
Et pas un italien. J'ai envie de dire, un italien, un étranger, effectivement.
Il faut prendre Tuchel.
Ouais.
Non, mais je vous le dis.
Vous êtes son agent, Nabil.
Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui est fait pour mettre un coup de pied dans la fourmi.
Oui, il l'avait bien fait à Chelsea, d'ailleurs.
Moi, je ne les vois pas réussir. Je ne les vois pas assez...
Vous ne les voyez pas sortir de groupe, là ?
Non, déjà non. Mm-hmm. Et puis, je ne sais pas. Non, c'est compliqué, à mon avis.
Ils iront les gants pas. Paris, en tout cas, fera-t-il mieux que l'OM ce soir ?
Chancel Bemba qui approche. Bemba est dans la surface. Le ballon pour Alexis Sanchez qui a pu frapper dans un angle fermé. Bemba! Eh oui, le feu d'artifice n'était pas terminé. Il manquait le bouquet final. Il est pour Chancel Bemba. 4-1 pour l'Olympique de Marseille. C'est une soirée de rêve.
Allez ! Tranquille, on s'enflamme pas, mon gars. Yes !
Hier soir, alors il a dit évidemment, on l'a tous entendu, hier soir.
Pas moi, c'était Nabil.
Hier soir, un club lisboète a donc servi de tremplin aux Foncéens. Tremplin pour remporter leur première victoire de la saison en Ligue des Champions 4-1 face au Sporting dans un vélodrome vide, mais un match disputé à huis clos qui finalement a plutôt servi les joueurs de l'OM. Victoire bienvenue après tant de déceptions et de défaites et alors que l'OM est invaincu en championnat. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match, Nabil ? Parce qu'on le disait là, avec Salim notamment, quand on voit un but arriver dans la première minute, on se dit « bon, est-ce qu'il y a encore un coup du sort contre cette,
OM.
Contre cette équipe ?»
on peut retenir, il y a plusieurs enseignements évidemment. On peut évidemment, comme beaucoup de gens et d'observateurs, et notamment au Portugal, expliquer cette déroute du Sporting qui était jusqu'à là invaincu avec deux victoires, dont une nette face à Francfort.
Oui, ils étaient en tête du groupe.
Que le basculement se fait sur le niveau catastrophique du gardien.
Qui fait trois erreurs en quelques minutes.
Voilà, qui n'est pas impacté, qui a impacté le match, c'est une certitude. Mais j'ai aussi vu une vraie réaction d'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille à l'image d'un Alexis Sanchez qui a été chercher cette victoire. Qui a mis de l'intensité, qui a mis de l'envie et qui a fonctionné sur ses points forts. Ses points forts, c'est le pressing, c'est le harcèlement, c'est la maillotche, c'est les pistons avec Klose qui délivre une passe magnifique à un Harit qui lui correspond davantage au système de jeu de Tudor que par exemple un Payet ou un Gerson qui sont utilisés à contre-emploi depuis le début de saison. Moi, j'ai plus envie de retenir un Olympique de Marseille qui est resté sur 16 défaites en 17 matchs, qui a inscrit 4 buts sur ce match-là. C'est jamais anodin à mon sens. Et puis aussi le dépassement de fonction, et on en parlait tout à l'heure en antenne, Annie, notamment d'un garçon comme l'international congolais Chancel Mbemba. Je disais avec humour hier soir que l'OM cherchait son grand attaquant. Il l'a peut-être trouvé avec Mbemba parce que son but
est beau, hein, ça
but son crochet, c'est exceptionnel. Donc voilà, je retiens un gros match de l'OM, même si en deuxième mi-temps, on aurait pu espérer un peu plus d'intelligence dans le jeu. Mais 4-1 à la sortie de ce match-là, alors que vous restiez sur deux défaites, que tout le monde vous avait enterré, bah non, l'OM est encore en vie.
Salim.
Il y a des notions positives parce que oui, quand vous êtes mené 1-0 après 53 secondes, quand Paulo Lopez fait une parade énorme pour éviter le 2-0 et que vous avez la chance et la possibilité de réagir, c'est ça qui est effectivement important, parce que oui, l'erreur d'Adan, elle est là, mais encore une fois, Alexis, il est dans cette volonté de pressing que tous les neuf n'ont pas, même au bout de 9, 10, 13 minutes.
Benzema a fait pareil avec Donnarumma l'année dernière face à Karius.
Exactement.
Vous le faites 100 fois. On pense que vous vous épuisez, mais lui sait qu'une ou deux fois, ça va marcher.
Exactement.
Et pour un joueur, ça a même marché en finale d'une Ligue des Champions. Benzema face à Karius.
Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Donc, de voir Alexis, de voir Harit marquer, voilà, c'est cette capacité de réaction de l'OM. Alors oui, il y a eu des circonstances favorables, oui, le rouge d'Adam par Vista.
Oui.
Mais encore une fois, de voir l'OM réussir conquérant à faire cela, de ne pas encaisser d'autres buts derrière, parce que oui, le Sporting a eu une ou deux opportunités en début de seconde, ben c'est aussi ça l'aspect positif. Et au final, l'OM réussit à marquer et réussit à se relancer puisqu'il y a eu 0-0 dans l'autre match
bon
du groupe.
Pour eux.
Donc j'ai envie de dire, c'est idéal en plus pour le match retour, parce qu'on pense déjà au match retour. Ce ne sera pas Adan, mais son remplaçant là-bas, qui sera dans la cage. Donc tout est possible encore une fois.
Oui. Surtout que finalement, quand même, Eric, on a vu un OM qui l'a commencé à correspondre sur la scène européenne à ce qu'il fait en Ligue 1. Ils sont à deux points du Paris Saint-Germain. Ils sont toujours deuxièmes, surprenamment, avec Igor Tudor.
Non, mais ils ont su profiter des erreurs de l'adversaire. Après, moi, je m'emballe pas comme vous. Je suis désolé, mais je ne veux pas faire mon Parisien de base parce que je pense qu'ils sortiront pas du groupe quand même.
Voilà.
Ils ont été capables de profiter des erreurs de l'adversaire. Donc on va pas réduire la performance de Marseille, ça je suis complètement d'accord. Mais je pense quand même ça reste un gros manque des deux gardiens de Lisbonne, et que quand on voit le départ du match, je suis pas sûr que en restant comme ça jusqu'au bout et sans les erreurs, ils soient capables de faire ce match-là. Maintenant, je n'enlève pas la performance de Marseille qui a été très très bon hier, et c'est vrai que ça peut donner des choses plus intéressantes pour la suite. Disons qu'on aura certainement plus d'adversité de la part de l'OM contre les adversaires. Oui, voilà, qui
ils,
vont arriver.
Ils ont montré une certaine force morale, et je pense
c'est
pour ça. Vous avez évoqué le jeu que Tudor veut imprimer. Dans ce jeu-là, les pistons ont un rôle central. Que Klose soit absent à peu près une dizaine de jours, puisqu'il est blessé, il s'est blessé hier, donc une dizaine de jours, donc pas là notamment pour le match retour. Ça va compter pour le coup, parce que Caboret, c'est un jeune, bout de décoffrage, qui montre un petit truc, mais c'est pas Klose, et ça va compter pour le coup pour le match retour aussi.
Mmh. Ouais. En tout cas, c'était effectivement un bon résultat. Et Marseille, alors dans ce groupe, au bénéfice d'un match nul qu'il y a eu entre Tottenham
et Francfort
et Tottenham, du coup Marseille finalement marque ses 3 points, ça s'est un peu resserré. Alors bon, Eric nous prédit qu'ils ne sortiront pas de la poule,
mais c'est la tendance quand même. Il faut pas être il faut rester lucide. Et puis comme l'a dit Salim, l'absence de Klose au retour, quand on voit ce qu'il fait, il est international français.
Moi,
mais on en avait parlé hier,
Klose
et c'est
Tavares,
vrai qu'il joue 20
quand même
minutes.
C'est vachement intéressant pour Marseille.
Après, franchement, la poule, Annie, elle est finalement plus accessible qu'on ne le pensait. Et c'est peut-être quasiment, pour moi, quasiment la plus faible de la Ligue des Champions.
Et je rappelle, il y a des choses quand même qui restent incompréhensibles dans ce groupe. Quand vous voyez le Sporting qui a tant de difficultés en championnat, je rappelle que le Sporting est 7 ou 8e du championnat avec 11 points de retard sur Benfica, mais que ce Sporting va en mettre 2 à Tottenham, 3 à Francfort, qu'ils en prennent 4 face à Marseille. Il y a des choses assez lunaires dans ce groupe qui, au final, donne cette incertitude qui fait que Marseille peut être 4e et peut finir 1er même de ce groupe.
Il ne faut pas perdre la semaine prochaine.
Absolument.
À défaut de gagner.
Oui. Absolument. Voilà.
Exactement. Et là, ça sera
Il faut que Sporting trouve un gardien déjà. Parce que
ils ont le deuxième gardien. Israël, qui n'a pas été bon sur la passe.
Oui, je sais, c'est pour ça que
ça m'a l'air dit.
C'est ça. Absolument.
Bah oui. Et c'est lui qu'on va revoir. Ce soir, il y a un match important. Hier, on a beaucoup aimé, on en a beaucoup parlé dans la deuxième édition de Radio Foot International. C'était l'Inter Milan contre le FC Barcelone. Match très intense. Eh bien, on imagine que ce soir, ça pourrait être intense aussi sur la pelouse de Stamford Bridge, avec des Blues qui sont un peu en perdition et qui ont pour mission de se relever. Chelsea au pied du mur européen, à peine 2 ans après le titre de champion d'Europe.
Ça va vite, hein. Le foot. Hein.
C'est fou. Et oui, c'est ce qu'on dit souvent. Les Blues donc ne vont pas très bien. Et ce soir à Stamford Bridge, on se demande à quoi ressemblera ce match qui les opposera au Milan AC. Chelsea n'a qu'un seul point, dernier de son groupe E. Et face au Milan AC, la tâche risque d'être compliquée même à domicile. Mais le défenseur sénégalais des Blues, Kalidou Koulibaly, est confiant.
Je ne m'en fais pas, je sais que mon temps viendra, nous avons beaucoup de matchs. Je donne tout à l'entraînement, je suis un grand travailleur et quand je ne joue pas, j'aime mettre toute mon énergie dans le travail. Pour le moment, je travaille bien, j'essaye de donner le meilleur de moi-même à l'entraînement pour lui montrer qu'il peut m'utiliser sur le terrain.
A-t-il raison, Kalidou Koulibaly, d'afficher une belle confiance alors en public, hein, je dirais, c'est-à-dire en conférence de presse, Salim, on n'est pas dupes.
Quand on l'entend bien, en tout cas quand on l'écoute bien, il parle aussi de sa situation.
Oui, c'est surtout.
Je rappelle que ce week-end...
Il est snobé par son entraîneur actuellement. Ouais,
disons que ce week-end, Chelsea a joué dans un système que Tourelle avait totalement fait oublier, la fameuse défense à 4, sous-entendu avec 2 défenseurs centraux. Parce que dans une défense à 3, vous aviez Koulibaly avec Thiago Silva, oui. Avec Fofana, c'était évident. Mais à 2, ce week-end, il a mis Fofana et Thiago Silva. Il a laissé Koulibaly sur le banc. Ils ont gagné 2-1 dans un match où Chelsea n'a pas été exceptionnel, mais Chelsea a gagné. Et c'est vrai qu'on se pose des questions à le voir à l'avenir. Est-ce que Graham Potter va remettre Koulibaly, ce qui serait évident, de mettre Koulibaly et Fofana, sauf que Thiago Silva, au final, n'a jamais vraiment déçu, mis à part quelques petites erreurs, mais au final... Sur une continuité, il a tout, quand même été régulièrement présent.
Ça va être acheté très cher pour ça.
Absolument,
ça,
c'est aussi.
Un super joueur.
Mais ça va être.
Il est vieux, mais c'est un super joueur.
Mais ça va être l'une des interrogations.
C'est juste l'équipe du Brésil, quoi.
C'est ça. C'est pour ça que ça va être l'une des interrogations. Bon, c'est le choix du roi pour Potter. Hein. Quand vous êtes Thiago Silva, Fofana et Koulibaly, il y a pire quand même. Hein.
Oui, mais bon, je pense que Koulibaly, il faut qu'il se pose des questions quand même, parce que ça va être compliqué pour lui. Il a intérêt à bosser et il va avoir du temps de jeu. Je dis pas qu'il va pas jouer. Mais. Je trouve que dans ses performances, il n'est pas encore, complètement intégré en première ligue. Hein.
Mais en tout cas, entre Koulibaly d'un côté et encore fois ce système, parce que
oui,
Tourelle avait,
mis
son système à 3 qui fonctionnait bien pour le coup pendant un certain temps et qui, la saison dernière, sur cette fin de saison dernière et début de saison, a été plus difficile à remettre en marche. Là, de repartir sur un nouveau schéma de jeu, sur un nouveau 9, Aubameyang, il ne fait qu'arriver au final. Il est arrivé il y a très peu de temps. Au final, ça demande du temps. Et ce temps-là, est-ce que Potter va l'avoir pour pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale? Ça va être une des interrogations.
Ils sont inquiétants pour vous, cette équipe de Chelsea, Nabil?
Oui, bon, ils ont le matos, si je puis me permettre de m'exprimer comme ça. Parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a dépensé des choses assez incroyables encore à l'intersaison. Sterling, Koulibaly,
Aubameyang,
le latéral gauche, la Cucurella, ils se sont tirés la bourre, si je puis me permettre, avec Manchester City pour payer 63 millions d'euros pour un joueur qui arrive de Brighton, qui était passé par Eibar et qui a été fermé au Barça, qui est un bon joueur, voire un très bon joueur. Mais ils sont tombés aussi dans une boulimie de transferts.
Chelsea, c'est l'équipe qui a le plus dépensé dans le monde. Hein, c'était déjà.
Donc, en général, ça, c'est un. Ça marche le coup. Soit ça marche pas, soit ça marche le coup d'après, c'est-à-dire l'année d'après.
Ouais.
Le temps que tout le monde se connaisse, que les choses se mettent en place. Bon, après, évidemment, il leur reste quand même une force de frappe qui est assez exceptionnelle. Quand vous avez des joueurs comme même le Marocain, Hakim Ziyech, qu'on verra. À la Coupe du Monde, puisque Vahid Halilhodžić est parti, donc on le verra à la Coupe du Monde avec le Maroc. Toujours bon à rappeler.
Il a joué, Franck Simon l'a vu jouer, très, très bien intégré dans le groupe marocain.
Donc voilà, après, franchement, moi, je n'ai pas trop compris le départ de Tuchel. Je sais que c'est quelqu'un qui a parfois des relations compliquées, mais vous savez, quand vous gagnez une Ligue des Champions, c'est tellement compliqué de gagner une Ligue des Champions. Oui. Quand on voit tous les clubs qui courent.
Je pense que le problème de Chelsea, c'est le fait que Kanté ne soit plus là. Parce que Kanté, c'est lui qui régulait tout le jeu de Chelsea. Alors, on peut parler des attaquants qui rataient. Mais
on sait ce qu'il faisait en équipe de France.
Bien sûr,
alors on sait très bien.
Un mec comme ça,
et à Leicester.
Qui ne joue plus parce qu'il est blessé et qui alors il va revenir. Mais tu enlèves un Kanté de ton équipe. Ça change tout. Franchement, ça change tout. C'est pour ça que, certainement, Tourelle est parti aussi, parce que... Et puis, les résultats.
Je veux dire 2 choses. D'abord, répondre à la bille. Pourquoi Tourelle a été viré? On rappelle que Todd Boehly, qui est le propriétaire de Chelsea...
Nouveau propriétaire.
Pour le coup, on a l'impression qu'il n'est pas très patient.
J'allais dire, il n'était pas fan aussi, peut-être.
Peut-être, mais surtout, il n'est pas très patient, quand même. Lui, il veut des résultats assez rapidement. Il n'a peut-être pas compris qu'en foot, il fallait justement avoir du temps.
C'est souvent le cas, les mecs qui arrivent et qui mettent des sous.
Plusieurs titres de la presse anglaise ont expliqué qu'il n'avait pas été d'accord avec un choix choix de Tourelle, celui de ne pas faire venir Cristiano Ronaldo. Ah oui. Plusieurs titres de la presse anglaise ont évoqué cela, puisque Cristiano Ronaldo était en partant cet été. Borrelli aurait bien voulu récupérer le Portugais et Tourelle avait dit non, 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 je ne le veux pas dans mon système de jeu. Ah oui. Et ce que Borrelli n'a pas du tout apprécié, semble-t-il. Juste pour vous répondre, Eric, sur le cas Kanté, ça va être intéressant parce que Kanté, c'est malheureusement un joueur, et on le voit de plus en plus, qui se blesse de plus en plus, ouais, les petites blessures musculaires. Je rappelle qu'il est libre à la fin de l'année et c'est vraiment pas sûr que Chelsea veuille le prolonger la saison prochaine parce que
ils
malheureusement...
Le pas au même tard. Ils ne le prolongeront pas en lui rajoutant de l'argent puisqu'il se blesse beaucoup trop. En fait,
et en plus,
la
il y a
question
un
est là.
Dingue.
C'est qu'en général, si vous, oui, on, veut, on fait tout pour que vous ne nous prolongiez pas, par respect pour ce que vous avez donné, on vous propose une certaine
chose,
somme d'argent,
mais qui sera loin de
vos espérances et qui sera parfois même en deçà de ce que vous gagnez jusqu'à présent. Après, Kanté, oui, c'est juste une question physique.
Je m'inquiète pas pour lui. Hein. Ouais, moi, franchement.
Salim, quel est l'effet quand même Graham Potter a-t-il un magicien à la tête de cette équipe de Chelsea, n'est-ce pas, parce que lui, c'est son premier match de Ligue des Champions.
Deuxième. Il était là contre Salzbourg.
Pardon, le deuxième. Mais on se souvient que c'est la Ligue des Champions qui a été la ligne de flottaison pour Tuchel, puisque la défaite à Zagreb lui a été fatale.
Totalement. Mais le truc, c'est que faut pas oublier quand même que Graham Potter, il a pas eu de chance. C'est que il y a eu ce match face à ça. Le premier match qu'il fait, il a même pas fait de match de championnat. Premier match, bim, Salzbourg pour commencer un match de Ligue des Champions. Lui qui avait jamais coaché en Ligue des Champions. Donc bon, c'est pas évident forcément pour se mettre en rodage. Et le 1 à domicile face à Salzbourg n'était pas sensationnel. Le problème, c'est que là encore, il n'avait pas eu le temps de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Bon, ensuite,
est-ce qu'il va lui laisser le temps?
On ose espérer. Ensuite, il y a eu le décès de la reine qui a fait qu'un match a été reporté. Ensuite, il y a eu la trêve internationale. Et c'est seulement ce week-end qu'il a disputé son deuxième match à la tête de Chelsea. Donc au final, c'est bête.
Bon, par contre, il a eu le temps de travailler.
Le problème, c'est qu'il a eu le temps de travailler.
Pas mal internationaux.
Avec très peu de joueurs, puisque la plupart n'étaient pas là. Donc au final, c'est terrible de le dire comme ça, mais il n'a pas vraiment eu le temps, encore une fois, de mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Contre Palace, il gagne ce week-end, mais il ne doit jamais gagner ce week-end. Il n'a pas été bon, Chelsea n'a pas été bon, les joueurs n'ont pas été bons. Là encore, il faut lui donner un peu de temps.
Edouard Mendy, comment va-t-il ?
A priori, il va bien, il va mieux. Mais au final, c'est Kepa qui va continuer encore une fois.
Ouais.
On espère que Mendy va revenir bientôt parce que Kepa, ce n'est pas l'assurance tout risque malgré tout.
Mendy pas été non plus en début de saison et a perdu un peu de sa superbe. Ouais. Je dirais même, comme l'avait dit Claude Leroy il y a quelques temps, il a perdu son insouciance un petit peu.
C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison.
Alors, en face, une équipe italienne qui a sans doute plus de certitudes, mais ce qu'on voulait souligner, c'est qu'il y a un homme qui est présent dans ce grand rendez-vous milanais et qui connaît bien Chelsea. Il a été champion d'Europe avec Chelsea et c'est le buteur Olivier Giroud qui revient en territoire connu.
J'ai été très chanceux de pouvoir retourner à Montpellier après 3 mois à Arsenal pour mon premier match de Ligue des Champions. Là, je suis très heureux de pouvoir retourner à Stamford Bridge un an après avoir remporté la Ligue des Champions. J'espère qu'on va montrer à quel point Milan est bon. On l'a montré en Italie en remportant le Scudetto l'année dernière. Maintenant, on veut le montrer en Ligue des Champions avec humilité et en ayant confiance dans notre football et dans nos qualités.
Calcio e le nostre qualità.
On va encore le voir.
Son italien est parfait quand même. Hein.
Ouais,
impeccable.
Hein. Sa grand-mère est italienne, il nous l'avait rappelé. Nabil, Olivier Giroud.
Tout bas, Highlander, inoxydable.
Moi j'adore.
Extraordinaire. Il a changé de championnat, il est resté dans un top club. Il est arrivé.
Champion
dans...
d'Italie.
Ouais, il a le respect de tout le monde, de Zlatan Ibrahimovic, de ses jeunes coéquipiers, parce que je suis un peu sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'adore, il fait le taf sur le terrain. Moi, souvent, je dis, en fait, vous avez des joueurs qui ont beaucoup de talent et qui gâchent leur carrière. Et souvent, on les met en exergue, ah oui, blabla. Mais en fait, il faudrait prendre Olivier Giroud à la fin de sa carrière et l'emmener dans tous les centres de formation de France et pour l'expliquer par A plus B comment réussir une grande carrière et sans lui rien lui enlever, parce qu'il a du talent. Mais lui, il a optimisé comme peu de joueurs l'ont fait dans l'histoire du football. Et il réussit une grande carrière avec un CV où il a quasiment tout gagné.
Eric.
Non, mais je pense que Olivier Giroud, il est sous-coté, mais c'est un truc de fou quand même. Parce que marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. Et ce mec-là marque des buts tout le temps. C'est-à-dire qu'il soit avec n'importe quelle équipe, il marque des buts dans tous les clubs. Donc je ne comprends pas le débat avec
c'est
Giroud.
C'est son style, en fait.
Ce
c'est
mec-là,
un procès en style.
Oui, il est peut-être... Parce qu'on est toujours en train de parler de beaux buts et tout ça, là. Mais aujourd'hui, je regarde Haaland, il met des beaux buts, il met des buts moches. Et non, mais c'est vrai. Et il s'en fiche, parce que le principal, c'est de marquer des buts. Le plus dur dans le football, c'est de marquer des buts. Giroud marque des buts depuis je ne sais pas combien d'années, et on est toujours en train de dire « Ouais, mais Giroud, tu sais, machin... » Mais Je comprends pas qu'il y ait de débat. Il n'y a pas de débat. Ouais. Giroud est très très bon et on doit l'emmener à la Coupe du Monde.
Quel plaidoyer.
Je rajoute.
Un petit mot,
oui,
Nabil.
Sur le Milan AC qui a réussi un bon début de saison, le champion d'Italie en titre, avec ils sont champions d'Italie, ouais.
Oui, bien sûr.
Non, mais le début de saison, je
oui, disais. Tu trouvais des moyens le début de saison?
Non, mais ils sont 6e ou 7e, là. Mm.
Oui, mais ça reviendra.
Je sais, bien sûr.
Ils sont pas loin. En Ligue des Champions, ils sont pas mal, non?
Ils ont gagné le derby.
Ouais. Non, mais un petit clin d'œil au meilleur joueur de la CAN 2019, ça remonte un peu maintenant, Ismaël Bennacer, qui va être capitaine ce soir à 24 ans du Milan AC. Et dans l'histoire des Rossoneri, ce club mythique de l'histoire du football, né en 1899, donc il y a deux siècles, si vous voulez. C'est le 5e capitaine étranger du club italien. Donc c'est un signe qui ne trompe pas.
Ils prennent pas ça à la rigolade.
Voilà, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Et on lui a donc. Il aura le brassard ce soir puisque Stefano Pioli va lui donner. Et à noter aussi, on parlait de Kanté tout à l'heure, aussi un joueur, Bennacer, qui est plus très loin de la fin de son contrat, qui est courtisé par Chelsea et Liverpool notamment, et le Milan AC qui souhaite le prolonger.
On verra ça donc ce soir. Deuxième partie de Radio Foot International, soyez au rendez-vous. On va évoquer les compétitions internationales de football. Les grandes compétitions sportives qui deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus compliquées à organiser. Après la Coupe du Monde au Qatar et la polémique, on en a parlé hier autour des stades à ciel ouvert, réfrigérés et sur le lieu, on est dans la surenchère des candidatures pour la Coupe du Monde de 2030. 2030, ça sera le centenaire de la Coupe du Monde. La première fois, elle a eu lieu en Uruguay. Et il y a une candidature sud-américaine, Uruguay, Argentine, Chili, Paraguay. Mais aujourd'hui, eh bien, un trio improbable. Ah oui. Il y a un autre trio improbable,
voilà,
pardon.
Ça. Ah oui, celui-là, il est extraordinaire.
Voilà. Alors là, Grèce, Égypte, Arabie Saoudite. Plutôt poussé par la FIFA et Infantino. Et aujourd'hui, il y en a un qui surgit d'Europe. Alors, on avait Espagne-Portugal, ce qui a une certaine cohérence au point de vue géographique. Absolument. Aujourd'hui, ils ont intégré ce duo. Eh bien, ils sont devenus un trio. Ils ont intégré l'Ukraine à leur candidature. Écoutons Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole.
Por separado, Fernando representa el fútbol portugués. Yo represento el fútbol español. André representa el fútbol ucraniano. Pero juntos representamos el poder de transformación que el fútbol tiene en la sociedad.
Voilà, nous ensemble, portugais, espagnols et ukrainiens, nous représentons le pouvoir de transformation que possède le football dans la société. Ces trois pays ne sont donc pas limitrophes. Salim, je vous vois hocher la tête,
non.
Je crois que tout le monde a... Alors, le trio Grèce, Égypte, Arabie Saoudite, encore moins limitrophes.
Absolument.
Que faut-il penser de cette surenchère absolument folle aujourd'hui, Nabil? Nabil après, Salim.
Dans les thématiques de l'émission qui étaient notamment développées ou décrites sur Facebook pour l'émission, le mot géopolitique était utilisé. Et c'est vrai que dans le sport, pas uniquement dans le football d'ailleurs, et ça depuis, j'ai envie de dire, la création du sport, en tout cas des grands événements sportifs, on peut aller aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, on peut aller à la Coupe du Monde en Argentine dans les années 70, je pourrais utiliser plein d'événements comme ça où la géopolitique entre en ligne de compte. Et là, c'est vrai que l'Ukraine, bon, qui est malheureusement dans les thématiques...
Il parle d'un symbole de l'unité de l'Europe.
Oui, sur le principe, et on connaît la position européenne dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais pardon, alors là, je vais être très pragmatique dans mon propos, je m'en excuse par avance, mais l'Ukraine, ils n'ont pas autre chose à faire en ce moment que de penser à une candidature pour la Coupe du Monde, franchement.
C'est du soft power.
Ah ouais, non, mais...
C'est une manière aussi d'exister...
De concerner un petit peu, ouais.
D'exister diplomatiquement.
De rappeler.
Et de rappeler qu'ils sont...
Ils ont organisé un euro en 2012,
tout à fait, on s'en souvient. Non, mais c'est de la stratégie, de la communication. Tu parlais de géopolitique, on parle parfois de communication politique. Là, c'est de la communication géopolitique, tout simplement. Et voilà. Alors après, vous avez d'autres attelages qui sont effectivement, me paraissent un peu alambiqués. Bon, si vous me dites Arabie Saoudite et Égypte, je me dirais, bon, c'est la même ère civilisationnelle, entre guillemets, c'est le monde arabo-musulman, c'est deux grands pays, ok, mais la Grèce, qu'est-ce que ça vient faire
là-dedans ? Mais là, ça joue sur trois continents. Là, c'est le côté trois continents. Ah ouais. Europe, Asie, Afrique. C'est
On a vu la galère d'organisation pour les déplacements. Mais bien sûr.
C'est clair,
on peut rajouter encore un épisode comme ça.
On est en mode, faut faire attention écologiquement parlant, etc. Et là, parce que Espagne, Portugal et Ukraine, pardon, il y a quand même des distances non négligeables
dans les stades. Mais les vols, il va falloir les faire.
Il y a un côté non négligeable. Quand on parle d'Arabie Saoudite, Égypte, Grèce, ça veut dire donc que ça jouera en hiver, puisque Arabie Saoudite et Égypte, je les vois mal jouer en été.
L'Égypte, elle a fait la CAN en été, donc, mais bon, bref.
Mais l'Arabie Saoudite, pour le coup, ça me paraît compliqué. Et aller jouer en Grèce en hiver. Pour le coup, en Grèce en hiver, c'est très compliqué aussi. Dans toutes les propositions, là, il n'y a que l'Amérique du Sud qui me paraît un peu plus logique. Mais vraiment,
qui paraît logique
autres...
en plus pour un centenaire. Mais bon, voilà, parce que la première que les
j'ai l'impression quand même que c'est l'Amérique du Sud qui va quand même. Parce que c'est pas mal, là, l'attelage sud-américain. C'est Argentine, Uruguay et...
Oui, c'est le sud de l'Amérique du Sud. C'est Uruguay, Argentine qui sont voisins, Argentine, Chili qui sont voisins. Ils sont tous les quatre voisins, donc il y a une cohérence.
Ça correspond plus à ce que...
Et puis c'est un centenaire qui peut être fêté, effectivement. Mais...
J'espère que ça sera eux. Voilà.
Mais est-ce que, Salim, on n'a pas l'impression, parce qu'il y a de plus en plus d'équipes, il y a aussi cette folie.
On sera à 48 équipes.
Mais oui, théoriquement. Alors là, déjà, on aura une compétition entre États-Unis, Canada, Mexique. Et on a bien vu que c'était les États-Unis qui allaient avoir la grosse part
Absolument.
Du lion. Est-ce qu'on ne s'oriente pas vers ça aussi? C'est-à-dire, par exemple, Espagne, Portugal et puis Ukraine, une poule, quelques matchs et, pour crédibiliser, mais un projet plutôt symbolique.
Ça peut être ça, parce que vous l'avez dit sur le 2026, par exemple, au Canada, il y aura très peu de matchs. Je rappelle d'ailleurs qu'officiellement, c'est acté que le Canada ne sera pas qualifié d'office pour cette Coupe du Monde, alors qu'elle sera chez elle, pour le coup. C'est déjà acté pour le coup, parce que le Canada est sur le papier plus faible que les États-Unis et le Mexique. Espagne, Portugal, Ukraine, on verra d'ailleurs ce qui se passera à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on peut crédibiliser le projet en intégrant quelques matchs, vous l'avez dit, sur le territoire ukrainien. Après, je vous dis, aujourd'hui, d'ailleurs, la décision sera prise dans pas si longtemps, puisqu'il faut plusieurs années en amont
2024.
La décision pour pouvoir. Mais j'ai envie de dire, l'Ukraine, encore une fois, a tellement d'autres chats à fouetter en ce moment que de penser à cela.
On a la sensation qu'on est dans une surenchère un peu folle, parce qu'il y a quelques heures, voire deux, trois jours, a été quand même désigné l'Arabie Saoudite pour abriter des Jeux d'hiver, les Jeux d'Asie d'hiver.
Là, on bascule dans le fait divers, si je me permets.
On se souvient des JO d'hiver à Pékin et à Sochi, où il n'y avait pas de neige, pas de flocons.
Non, mais on est dans une
surenchère, Annie. On a l'impression que ça rime plus à rien.
Et surtout, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que c'est l'argent qui décide.
C'est ça le drame.
Il n'y a plus aucun sens.
Il y a un gigantisme.
Tant qu'on ne nous arrêtera pas, on va continuer à faire des choses comme ça.
Qui tapera du poing sur la table? Eh bien, on restera sur cette question, messieurs, et on se retrouvera. Nous, on se retrouve dans Radio Foot International, donc dans la deuxième partie à 21h10, 100 ans universel, 23h10, heure de Paris. Et messieurs, je vous dis à bientôt, bon match.